Canicule Tropicale s'associe aux productions Nuit d'Afrique pour le retour des soirées Nuit d'Afrique Sound System. Rendez-vous le samedi 23 septembre à la Sala Rossa avec comme invité la française Mambo Chic pour une soirée DJ set 100% vinyle de musique africaine, latine et caribéenne. Info sur festivalnuitdafrique.com. Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com.
J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés.
L'équipe de Dream Events vous invite à la toute première édition de Fashion Attitude, un défilé de mode multiculturel haut en couleurs. Tous les profits iront à la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est un rendez-vous samedi le 23 septembre à 17h au Centre des loisirs communautaires La Jeunesse. Venez nous aider à vaincre la sclérose en plaques. Les billets sont en vente au coût de 20$ en pré-vente. Ils sont disponibles à l'École du show business de Montréal. Ensemble, allions la mode à la cause.
Tous les vendredis et samedis, le Bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yé-yé, go-go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le Bar Le Record est situé au 7622 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions.
Choc.ca en collaboration avec le Club Soda est fier de présenter La Grosse Soirée, le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit. Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Lory Dance, Slaves and Dogs et The Easy Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le clubsoda.ca, dans les locaux de Choc et dans certains cafés de l'UQAM. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca. Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas, c'est gratuit.
Canicule Tropicale s'associe aux productions Nuit d'Afrique pour le retour des soirées Nuit d'Afrique Sound System. Rendez-vous le samedi 23 septembre à la Sala Rossa avec comme invité la française Mambo Chic pour une soirée DJ set 100% vinyle de musique africaine, latine et caribéenne. Info sur festivalnuitdafrique.com. Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com.
J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés.
L'équipe de Dream Events vous invite à la toute première édition de Fashion Attitude, un défilé de mode multiculturel haut en couleurs. Tous les profits iront à la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est un rendez-vous samedi le 23 septembre à 17h au Centre des loisirs communautaires La Jeunesse. Venez nous aider à vaincre la sclérose en plaques. Les billets sont en vente au coût de 20$ en pré-vente. Ils sont disponibles à l'École du show business de Montréal. Ensemble, allions la mode à la cause.
Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission numéro 151 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et je suis nouvellement la nouvelle animatrice donc de l'émission. Donc, ça fait très plaisir d'être ici avec vous. Aujourd'hui, rentrons directement dans le sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Young Adult Fiction. Donc, et je suis très bien accompagnée aujourd'hui pour parler de ça. Ils font déjà du bruit de l'autre côté.
On est déjà tannante.
Ouais, oui,
on
est très, très excités de parler de ça aujourd'hui. Donc, en fait, l'émission est organisée en prévision d'une journée d'études qui va être organisée ce vendredi 22 septembre, organisée par Fanny Demel, co-organisée en fait par Fanny Demel qui est avec nous aujourd'hui.
Oui.
Oui, donc l'événement s'appelle Journée d'études, transfiction et convergence en Young Adult Literature. Et donc, on fait un petit avant-propos ici, avant la journée d'études, pour essayer de mettre la table, diffuser un peu, faire de la pub aussi, hein, on va se le dire. Donc, merci d'être avec nous, Fanny.
Ça me fait plaisir.
Et aussi, autour de la table, j'ai avec moi Elisabeth Simpson.
Salut.
Animatrice des Amazones.
Ben oui.
Et de plusieurs autres podcasts à CISM.
Mais d'un autre podcast à CISM, le Boudoir des Imparfaits.
Oui, c'est ça.
Mais oui, c'est tout à fait juste.
Et tu es une grosse fan de Hunger Games?
Entre autres, Hunger Games, parce que je crois qu'on va parler de notre ami Harry aussi, mais Hunger Games est un fandom de Young Adult Fiction que j'ai découvert dans les derniers 5 ans et qui m'a plu et qui vient me chercher et qui me fait vivre des passions et lorsque, bon bref, je vais me maintenir, mais oui, j'ai commencé par les films. Et oui. Suite au deuxième film, je suis tombée dans la littérature de Hunger Games et j'ai lu tous les livres en 4 jours. Et je suis une lectrice qui ne lit pas vite. Donc 4 jours, ça a été littéralement en fait 4 jours de ne faire que ça. C'était durant le temps des fêtes, ça l'a aidé un petit peu. Mais oui, donc je suis plongée et depuis ce moment-là, Hunger Games est un fandom que j'aime vraiment beaucoup et que je défends toujours lorsque j'entends des gens le discréditer. Je suis toujours... Je suis pas loin pour défendre.
toujours prête à défendre
oui,
Hunger Games.
Toujours.
Donc, on va pouvoir en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Mais aussi, tu disais que t'étais entrée dans le fandom par les films. Donc, aujourd'hui, on voulait parler de Young Adult Literature. Ben, pas Literature, mais justement fiction. Parce que même si c'est un courant qui est majoritairement littéraire, corrige-moi si je me trompe, Fanny, mais donc, c'est rendu accessible aussi par le cinéma et la télévision. Donc,
c'est pour ça qu'on parle de convergence dans le titre de notre journée d'études. Donc, c'est vraiment hyper transmédia. Le storytelling vraiment s'opère à travers presque tous les médiums. Hein, t'sais, on part, comme tu l'as dit, Megan, beaucoup de livres, de grosses séries souvent aussi. Et éventuellement, on va se retrouver dans différents supports.
Oui, exactement. Mais c'est ça. Un exemple, moi, j'ai peut-être fait mon initiation à la lecture en général et à la Young Adult Literature avec Harry Potter, qui pourrait être aussi classé dans d'autres catégories. Et aussi, on a avec nous Catherine Côté, très
Bonjour.
Grande fan de Harry Potter aussi.
Aussi.
Donc, on va pouvoir parler de ça, mais avant tout, on va se poser quelques questions parce que, justement, Harry Potter est souvent qualifié de littérature jeunesse. Donc, je me demandais, c'est quoi la différence vraiment entre la catégorie qu'on appelle le young adult et le jeunesse ou la littérature pour adultes. Donc,
Je peux y aller avec une tentative de définition parce que c'est une notion qui est très contestée en ce moment, je dirais, la young adult fiction. Il y a beaucoup de théoriciens, théoriciennes, chercheurs qui considèrent cette tranche livresque-là de fiction-là différemment. Donc, il n'y a pas vraiment de balise stable. Généralement, quand on parle de jeune adulte, on parle plutôt de fin de l'adolescence et même jusqu'à fin vingtaine dans certains cas. Donc, c'est quand même assez extensible là, comme notion. Puis, on peut différencier aussi par les thématiques. Hein. Quand on parle de littérature jeunesse, bon, ça va s'adresser à un public un peu plus jeune. On va peut-être aller moins dans des côtés obscurs ou transgressifs, alors que quand on regarde dans le jeune adulte, par exemple avec Hunger Games, bon, on y va déjà avec des thématiques qui sont déjà un petit peu plus audacieuses, disons. Hein?
Donc, c'est plus comme un genre transitif entre la littérature jeunesse et la littérature adulte.
Ouais.
Oui, on en parlait aussi un peu avant d'entrer en studio. Donc, il y a plusieurs livres qui pourraient être classés pour adultes, en guillemets, qui ont été justement relayés à la catégorie young adult et inversement, les littératures jeunesse qui ont été un peu amalgamées à ce genre-là. Je sais pas si on pourrait qualifier ça de genre, là, mais...
Ouais, je sais pas aussi si on peut vraiment qualifier de genre. Je pense que c'est comme une manière d'appréhender un peu ces livres-là qui sont très hybrides à plusieurs égards. Et ce qui est intéressant aussi, comme on se disait un petit peu avant l'émission, c'est que comme tu le soulignes, Megan, il n'y a pas que des livres qui sont écrits de manière à s'adresser à un public young adult, mais c'est aussi des livres qui sont trouvés par les jeunes adultes, lecteurs, lectrices, qui finissent par se reconnaître dans les thématiques et qui, finalement, deviennent les lecteurs majoritaires de ces ouvrages-là. Et ça, c'est fascinant. C'est un genre, dans le fond, qui se trouve, qui se constitue un peu malgré lui... à certains égards.
Il se constitue aussi du côté de la réception, si on peut dire.
Exact, ouais, de la réception.
C'est les jeunes adultes qui ont décidé de s'approprier des textes qui leur parlaient au final, là, malgré le fait que ça peut couvrir autant la fantastique, la science-fiction, les fictions dystopiques, les fictions plus réalistes, disons-le, ancrées, par exemple, des histoires d'amour ou je pense à The Fault in Our Stars, justement. Mm-hmm. Donc, qui peut entrer dans cette catégorie-là, autant que Hunger Games, que oui. Harry Potter, que toutes les autres. Donc, on pourrait essayer de commencer par, justement, essayer de donner des exemples, parce que peut-être pour les auditeurs qui connaissent un peu moins le genre, ça pourrait les outiller. Donc, j'en ai nommé déjà quelques-uns. On parlait aussi de Divergent
ou Twilight aussi à un certain niveau, donc, qui se mélange, j'ai l'impression, et là, peut-être que je rentre déjà dans de la controverse, mais j'ai l'impression que la young adult fiction est souvent aussi considérée comme un sous-genre, et on a déjà parlé à cette émission-ci, il y a déjà une table ronde sur la notion de la chick lit, et je pense qu'il y a quand même une notion aussi de comment je pourrais dire, de il y a du snobisme de ce genre-là,
oui.
Et qui est du traitement de ça, et parce que bon, ben mettons un exemple de Twilight, ben on a une vision quand même qu'on parle de comparé mettons à Harry Potter est aussi une œuvre de fantasy. Il y a dans Twilight aussi du fantastique, fantasy et tout ça, mais il y a des notions de sexualité, par exemple, qui seront jamais touchées dans Harry Potter, donc qui peut-être expliquerait entre autres son traitement jeunesse, de par le fait que c'est très manichéen, il y a le bien, il y a le mal, vers la fin, il y a des nuances avec
on pourrait dire qu'à partir Dumbledore. Du cinquième livre, que ça commence à... Il y a eu une scission à un moment donné aussi dans la publication. Là, après le quatrième, là, ça commence à devenir dark. Là.
Ouais. Ça devient young adult.
Oui,
vrai,
c'est ça.
Ça suit son lectorat.
Il y a aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Harry dans le cinquième tome, qui est vraiment un adolescent choqué. Là, mais en même temps, c'est très compréhensible parce que Dumbledore le traite comme un enfant, alors qu'il veut devenir un adulte. Il veut avoir des responsabilités d'adulte. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là ça devient de la young adult parce que on a des ambitions d'adulte et on veut plus être que des enfants.
J'ai lu un truc assez intéressant récemment sur le fait qu'il y a beaucoup de thématiques de rébellion, de résistance dans la young adult, puis c'est comme la transition entre, ben on le disait tantôt, l'adolescence et l'adulte, puis souvent c'est de manière très contestataire, tu sais, c'est pas juste un coming of age story, corrige-moi Catherine si j'ai des bêtises, de l'entrée dans l'âge de l'adolescence, dans la maturité, mais c'est une contestation de cette notion de maturité-là. Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir adulte dans un monde qui est absolument violent, pas équitable et misogyne, etc. Donc, on a souvent ça, cas de figure. Hunger Games, je pense qu'on ne peut plus explicite de ce phénomène-là.
Hunger Games, qui est un univers où il n'y a pas de misogynie.
Oui, tout à fait.
C'est quand même très fascinant. J'en parlerai plus tard, mais de toute la notion de la lutte des classes dans Hunger Games, mais il n'y a aucune notion de misogynie.
Absolument.
Ça n'existe pas. Il y a du racisme, par exemple, qui est très systémique, qui est pas nommé, mais qui est présent, puis qu'on voit en image, en plus, dans le traitement, comme ils ont fait dans le film, d'avoir un district qui est le district 11, si je me rappelle bien, qui est le district de Roux, où est-ce que c'est presque exclusivement des personnes de couleur.
Ouais.
Je trouve justement que c'est intéressant d'avoir fait un univers, que Madame Collins a fait un univers ça existe juste pas, la misogynie. Puis ça ne se démontre pas non plus. Il n'y a pas de représentation d'une problématique de misogynie.
C'est ça, il n'y a aucune limite. Les femmes du district des bûcherons peuvent tout aussi bien être bûcheronnes. Il n'y a pas de regard sur le sexe et le genre de l'individu. Même qu'on pourrait dire que le Capitole est très queer aussi, d'une certaine manière.
Tout à fait.
Le maquillage est présent chez les hommes comme chez les femmes. Donc, il n'y a vraiment pas de distinction.
Et on va faire des... Type à reprise, critiquer des comportements chez des personnages féminins et masculins sans jamais le dire que c'est dû à leur masculinité toxique ou à leur féminité ou à leur situation de femme cisgenre, justement, où est-ce que, bon, ben, c'est vos hormones, vous êtes une femme, vous êtes sensible, vous êtes si. Il n'y a pas cette notion-là, puis il y a une critique qui est faite à l'égard de Katniss sur le fait que, ben, tu sais, Katniss, c'est un anti-héros aussi. C'est une femme, c'est un anti-héros, c'est une personne qui a peu d'empathie, qui est pas ouverte aux autres, qui est pas intéressée vraiment à l'aide des autres, qui a une relation beaucoup de culpabilité envers le fait qu'elle est entourée de gens qui veulent tant l'aider. Et c'est très contre le care, là, si je peux dire, là, comme Katniss représente vraiment pas cette féminité-là. Et pourtant, on lui fait pas sentir, on lui fait sentir que son attitude est pas bonne pour, au niveau marketing, puis au niveau d'aller chercher des sponsors, mais on lui fait jamais sentir que c'est parce que c'est une fille puis qu'elle devrait être belle puis qu'elle devrait se taire puis tout ça. C'est vraiment un beau traitement, je pense.
Oui. C'est parce qu'elle est participante, dans le fond, qu'elle doit séduire comme tous les autres tribus doivent séduire. Exactement. Pour avoir des sponsors, mais pas du fait qu'elle est une femme. Puis ce qui est intéressant, Katniss, voyons.
Mais c'est vrai que Catherine est intéressante. On en a pas parlé.
Ah, mais c'est comme Katniss. Oh. Il y a tout ce cheminement dans sa pensée qui devient comme un care politique plus qu'un care sentimental, si on veut. Mm-hmm. Parce qu'au début, elle est vraiment axée sur sa survie, là, celle de sa famille, mais finalement, elle finit par intégrer des valeurs communautaires qui n'étaient pas présents à la base chez le personnage.
Vrai. C'est plus l'éthique, justement, que le care, peut-être, c'est qui ça, est important pour elle.
Mais je veux dire, à la fin, quand même, elle va quand même prendre des décisions, à la finalité, elle va prendre des décisions complètement... je veux dire, peux-tu nous aider à faire notre révolution? Oui, mais faut que tu sauves un chat. Il y a des trucs dans sa logique qui est un peu particulière. Puis il y a aussi, tu sais, justement, à la fin, comme, est-ce que vous acceptez qu'il y ait un nouveau 76e Hunger Games avec des enfants du Capitole? Ça nous semble une excellente idée. Puis Katniss qui dit, ben, OK. Puis Pita qui est comme, ben voyons donc, mais Pita c'est la représentation même du care à l'intérieur de l'œuvre. Et Pita justement qui va dire comme, mais ça n'a absolument aucun bon sens, tu peux pas dire des choses comme ça après ce que t'as vécu. Puis bon, finalement il n'y en aura pas eu 76e Hunger Games pour les raisons qu'on connaît, la chute du système, mais ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que il y a justement cette espèce de notion là que cette héroïne là ne représente absolument aucun stéréotype. Puis ça m'a fait beaucoup de bien de le lire. Moi, je l'ai lu à... J'avais 20 ans quand j'ai lu ça, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et là, je vais rentrer sur une pente vraiment glissante, là, parce que à l'époque, et je dis pas que c'est ce que je pense aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai lu Twilight, en 2000... En tout cas, j'avais à peu près 15 ans quand j'ai lu Twilight, puis ça m'a fait de la peine quand j'ai fini le quatrième livre, parce que j'ai tellement pas aimé le personnage de Bella, j'ai tellement pas aimé ce qui s'est passé. Et bon, là je sais que Megan a déjà, en tout cas je vais faire des liens parce que j'ai déjà écouté ton émission, ou j'ai entendu parler beaucoup de ton émission que t'as faite sur Twilight, où est-ce qu'on disait que Twilight est une mauvaise représentation pour les femmes et que c'est comme dangereux pour les femmes.
Mais c'était pas sur Twilight, mais c'était en extension de Fifty Shades of Grey, où il y avait eu une espèce de panique morale autour du fait que les femmes allaient pas comprendre que c'est juste la fiction.
J'ai fait le lien à cause de la fanfiction.
Oui, c'est ça, parce que Fifty Shades est une fanfiction de Twilight, donc c'est sûr qu'on fait le lien facilement. C'est le même, techniquement le même personnage, on va dire. Là, ouais.
Mais c'est ça, j'avais vécu ça à ce moment-là, tu sais, d'une espèce de j'ai une représentation ici de Bella qui représente quelque chose dont j'aimerais m'affranchir en tant que femme. Je ne veux pas être une dépendante affective, je ne veux pas vivre dans un univers où les hommes me disent quand est-ce que j'ai le droit d'avoir de la sexualité. Je ne veux pas me devoir choisir entre deux représentations masculines. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnaissais pas dans Bella, puis qu'un personnage comme Katniss, je me suis dit, non seulement c'est... Bon, au lieu d'y aller plus dans le côté panique morale de Twilight, j'aimerais mieux aller dans un côté que, ben, avoir une diversité de représentation de la féminité va faire du bien, je pense, à une génération de femmes qui n'auront pas eu cette représentation-là, mais qui l'ont eu, dans le fond, là, avec Katniss qui est l'anti-héros, ce qui fait du bien. Qui pourrait peut-être être un lien, mettons, avec d'autres personnages d'anti-héros qu'on a vu féminins comme Daria et tout ça dans le passé, mais ça, c'était pas de la young, c'est pas dans la littérature. Mm-hmm. Mais je vais lancer la balle à Catherine, parce qu'on a parlé ensemble la semaine passée, dans un autre podcast, de la représentation d'aussi d'Hermione.
Oui.
Et je pense que Harry Potter est aussi, quelque part, un bon vaisseau de valeurs, en fait, d'apprentissage de valeurs et d'apprentissage de ce qu'on parlait plus tôt. Du passage de l'adolescence, de l'enfance à l'âge adulte.
Avec la pensée critique.
Mm-hmm. Oui, tu parles de la variété des représentations féminines aussi.
Oui, aussi.
Oui, c'est ça. Ben, justement, on en avait parlé, c'est ça, la semaine dernière aux Amazones. Moi, une des choses qui m'a frappée dans Harry Potter, c'est le vaste spectre de représentation des femmes qui passe de Molly Weasley, qui est justement une incarnation parfaite de l'éthique du care, à un personnage comme Bellatrix Lestrange, qui est complètement démoniaque et qui a absolument aucun compas moral. Fait que, les femmes se situe à peu près partout dans ce spectre-là, plutôt que d'être seulement d'un côté ou plutôt d'être campé dans une féminité plus orthodoxe.
Normative,
ouais. Oui, c'est ça. Plutôt construite et figée. Mm-hmm. C'est ça, la féminité s'incarne de différentes manières dans Harry Potter, puis passe pas non plus uniquement par la sexualité. Justement, on a parlé de la sexualité, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant dans les livres d'Harry Potter, mais la maternité non plus. Molly Weasley est mère, mais a fini d'avoir des enfants, puis toute la question des enfants que la génération d'Harry Potter ont est complètement éclipsée par le fait qu'il y a seulement un épilogue qui se passe 17 ans plus tard et c'est passé. Mm-hmm. On parle pas, c'est ça,
les
de maternité.
De nulle part.
Oui, c'est ça. Il y a pas la période transitive de maternité qui peut être une période formatrice dans la représentation de la femme. C'est ça. On représente souvent les femmes dans cet état-là.
Ça touche une question intéressante, je trouve, parce que tu mentionnais le débat qu'on avait eu sur Fifty Shades. La différence de Fifty Shades, c'est que ça s'adresse à des adultes, alors que je pense que vu que la young adult literature et la young adult fiction s'adressent principalement à des jeunes adultes en formation, si mm-hmm. je peux dire, la question de la pédagogie est très, très importante, vraiment plus importante que dans une fiction qui s'adresse directement aux adultes où la sexualité est très présente. C'est sûr qu'une adolescente ou un adolescent qui va lire Twilight, qui va lire Harry Potter, va former un peu sa personnalité, comme on l'a tous et toutes fait en tant que geek, avec ces univers fictionnels-là. On a des exemples et on agit selon les exemples. Fait que je pense que la question est vraiment plus importante. Corrigez-moi si je me trompe.
Je pense que tu as raison, ça, oui. Hein? Puis j'ajouterais à ça que ça vient avec ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup des représentations de monde en crise qui sont peut-être pas nécessairement dans l'état dystopique ou post-apocalyptique, mais il y a toujours une crise. Mm-hmm. Je pense que c'est ce qui recoupe pas mal. Tu sais, Maze Runner, c'est ça aussi. Là. Il y a toujours... il y a souvent un régime oppressif ou une forme d'oppression latente qui est là, comme d'une manière ou d'une autre. Puis je pense que ça vient justement du côté pédagogique parce que les protagonistes sont à même de développer une pensée critique et de se positionner et de prendre part à une forme de changement. Hein. L'armée de Dumbledore, c'est vraiment ça, c'est prendre part à une révolution pour changer l'ordre qui est en place et qui est défaillant, qui est injuste.
C'est ça, donc les aspects plus fantastiques, plus dystopiques, c'est vraiment une littéralisation ou une façon explicite de montrer cette crise de l'adolescence-là qu'on a tous et toutes vécu un mm-hmm. peu à notre manière. Là. On n'a jamais eu à se battre contre Voldemort, mais on a eu à se battre contre nos démons intérieurs à l'adolescence aussi.
Par exemple, on parlait de Divergent tout à l'heure avec Triss qui doit carrément faire le choix. T'sais, je trouve que c'est une tellement belle illustration de l'espèce de choix qui apparaît comme décisif hein, quand on passe à l'âge adulte de se choisir un destin. Mm-hmm. Puis je me souviens sur le bac, la quatrième de couverture de Divergent, c'est écrit carrément « One choice to define you ». Tu sais, c'est vraiment comme si c'était décisif.
Là, on se voit tout en secondaire 4 dans le cours de choix de carrière à faire comme là vous c'est avez ça. 15 ans puis vous devez choisir qu'est-ce que vous allez devenir pour les 60 prochaines années de votre vie.
C'est comme le serment de sang. Là, oui,
t'as fait ton petit test là où il fallait que tu remplisses les questions. Puis, toi, tu vas devenir médecin. Puis moi, j'ai eu clown.
Une de mes amies a eu clown aussi.
Ouais, j'avais eu clown. Ouais. J'ai comme qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Le clown diabolique dans It, voilà. C'est toujours une option. Mais ouais, mais c'est ça. Moi, je réalisais ça tantôt quand t'as lancé le thème young adult literature. Pour moi, de la littérature young adult, c'est The Catcher in the Rye. Oui. Puis moi, j'ai eu, c'est ça. Même si quand j'étais petite, moi, ce que je lisais, c'était Harry Potter, les Chroniques de Narnia, His Dark Material de Philip Pullman. Ben, quand tu m'as dit ça, moi, j'ai pensé, ben oui, formation, Catcher in the Rye, c'est le passage à l'âge adulte, c'est ça. Puis tout ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que la question du fantasy est effectivement vraiment très accessoire parce que tout ce que ça raconte, c'est une crise. Mm. Puis les crises peuvent être super réalistes, même quelque chose comme Sa Majesté des Mouches, qui est réaliste, mais pas tant réaliste. On dirait plus une dystopie.
Le contexte est techniquement réalisable,
oui,
mais en même temps,
ça.
La situation est très improbable.
C'est une situation limite.
Sinon, mais... The Outsider ou...
Rumblefish, qui était tellement un bon livre. Mm. Voilà, fallait que je le mentionne.
puis toi, tu pourrais nous parler aussi de... Tu nous as déjà parlé, en tout cas, hors d'onde, de Stand By Me aussi, qui est une espèce de... Encore une fois qu'il parle du passage. Ben, là, donc.
Encore là, c'est ça. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que je me suis dit « Ah oui, moi, je vais arriver ici, puis j'ai plein de choses à dire parce que je fais ma thèse sur le rite de passage. » Mais en fait, moi, je travaille uniquement sur un corpus de littérature adulte.
Mais un corpus que tu as lu à l'adolescence, par
oui.
contre.
Mm-hmm. Oui,
c'est ça. Ça qui... D'où on parlait en début d'épisode oui. de on s'approprie un peu ces livres-là, puis on les fait.
On les élit. Ça met encore plus de l'avant le fait que la ligne est vraiment mince entre ce qui est de la littérature young adult. Mm-hmm. Puis ben, Stephen King, c'est de l'horreur et c'est vraiment pas young adult. Moi, j'ai lu ça quand j'avais 12 ans. Je pense pas que t'es censé faire ça. Mais...
Et pourtant, les personnages enfants et oui. jeunes sont quasi omniprésents, mm-hmm. à part les personnages d'écrivains sous, là.
Oui. Mais les enfants deviennent souvent des écrivains sous. Oui.
Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on nomme énormément d'auteurs et d'autrices américains et américaines. Dans le cas de J.K., c'est anglais, mais tu sais, je veux dire, on parle pas beaucoup de, tu sais, comme mettons, même au Québec, young adult, est-ce qu'on pourrait considérer comme, je sais pas moi, un Patrick Sénécal, comme un auteur de young adult fiction, ou est-ce que c'est de la ça dépend quel, mettons, peut-être plus Malfa, serais-tu considéré comme young adult fiction, mais le reste de son corpus, c'est de la adult tout court, mais pourtant, moi j'ai lu ça adolescente.
Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, je trouve que son ultime livre young adult, ce serait Alice, parce que c'est carrément une transposition de, c'est ça, Alice in Wonderland, et le rite de passage est là du début à la fin. On part de l'état stable, on va dans l'entre-deux où la transition se fait, la redéfinition de soi, puis on ressort. C'est textbook rite de passage sur un livre vraiment trash, mais c'est correct.
Il y a la crise identitaire qui est quand même présente. Je pense qu'au Québec, il n'y a pas vraiment de corpus très défini. C'est plus un corpus très gazeux, puis trouvé aussi par la réception. Mm-hmm. On pense ben Marie Demers, qui co-organise la journée d'études avec moi vendredi. Son livre, bon, a été conçu de manière young adult, mais comme je le disais tantôt à Megan, in between, en lisant, j'avais des échos de ce que j'avais fait aussi dans Déterrer les eaux, qui traite d'une crise identitaire et qui fait très young adult, parce que je le réalise au fil de mes rencontres avec les lectrices, les lecteurs qui sont souvent de l'âge du cégep ou début vingtaine, donc on dirait qu'on s'en rend pas nécessairement tout le temps compte quand on l'écrit, mais finalement ça finit par le devenir. Par la force des choses.
Oui, c'est ça. Il y a aussi la question de... Quand on parle de littérature, on parle de la question éditoriale. Donc, peu à peu, surtout dans la littérature américaine, il y a des catégories éditoriales qui se créent autour de ça. Là. Donc, on vend les livres comme des livres de young adult, mais ça se faisait pas avant. Mm. Et ça se fait pas vraiment encore au Québec. Non. Parce qu'on a Soulière, qui fait peut-être un entre-deux, là. Donc, ils ont une petite collection un peu plus adulte de leur littérature jeunesse. Mais en même temps, sinon, on va dans la courte échelle et on passe tout de suite à des éditions, des maisons d'édition comme Amac, où ton livre a été publié. Donc, qui est techniquement adulte, mais qui pourrait s'adresser à peu près n'importe qui entre 12 et 30 ans. Là.
Absolument.
Mais
ce que je trouve, et vous êtes, vraiment plus compétente que moi de par vos études en littérature de peut-être commenter ce que je vais dire, mais j'ai l'impression aussi que la young adult fiction c'est de l'aventure et c'est beaucoup il y a beaucoup de travail fait sur la péripétie. Puis si je peux parler mettons de Déterrer les eaux que j'ai lu, c'est très poétique, tu sais, il y a une recherche de structure littéraire qui était comme plus dans le, tu sais, c'est plus court, c'est une œuvre qui travaille avec la forme et tout ça, alors que il y a dans la young adult fiction, il y en a qui sont très bien écrits, il y en a qui sont très mal écrits, mais en général c'est de la péripétie, il faut qu'on fasse vivre une aventure, puis il faut qu'il y ait tout ça là, tu sais.
C'est peut-être aussi à cause de sa filiation à la littérature de genre en général.
C'est vrai, j'ai eu une rencontre avec une directrice éditoriale d'une maison que je ne nommerai pas. On fait pas de placement de produits ici à Choc. Mais oui, puis pour écrire de la littérature jeunesse, en fait, je me suis fait expliquer que c'est ça, il faut vraiment mettre l'accent sur le développement de l'intrigue et installer l'ambiance rapidement. Versus dans un contexte adulte où tu peux faire des textes d'ambiance, un petit peu comme j'ai l'impression que ta littérature à toi, c'est de la littérature d'ambiance, c'est de la poésie mais c'est de la prose, ça installe quelque chose mais ça installe
mais
longtemps.
Mais c'est aussi très introspectif.
C'est aussi très introspectif.
On voit moins la péripétie dans l'introspection, alors que moi j'en vois un peu aussi parce que c'est un développement personnel.
C'est plus intériorisé. Ouais.
C'est intériorisé. T'es pas en train de courir partout, mais t'es en train de vivre des choses tout de même. Mmh.
Ouais, oui. C'est ça se passe autrement. Mais oui, non, c'est... Puis ça me fait penser à des choses que je lis sur les si on veut, les axes transversaux de la young adult, souvent c'est écrit au jeu, tu sais, on est souvent dans des, ben, je pense à Katniss, on découvre son univers en même temps qu'elle, il y a une espèce de d'effet d'instantanéité aussi qui crée une espèce de proximité assez intense pour amener justement le lectorat à pénétrer dans ces univers-là. Mm-hmm. Puis il y a souvent aussi des mondes, des créations de mondes à travers mm-hmm. la young adult fiction, beaucoup de, peu importe à quel genre il appartient, mais il y a souvent la mise en place vraiment d'un univers particulier pour justement mettre en place des péripéties qui sortent de l'ordinaire ou
des épreuves.
Des aussi, épreuves, oui.
On en parlait la semaine dernière, Elisabeth, aux Amazones mm-hmm. aussi. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme de mettre en place des personnages qui sont des outsiders et qu'on fait entrer dans un monde. Comme ça, c'est ça, on découvre instantanément, mais puisque la description se passe à travers leurs yeux, en tant que lecteur, on n'est pas perdu.
C'est ça.
C'est ouais. pas des personnages qui sont déjà initiés, c'est des personnages qui entrent comme nous, on entre. Mmh. Fait qu'on décrit comme Harry Potter qui sait pas qu'il est un sorcier, comme tous les petits enfants qui se ramassent à Narnia, comme justement la petite fille dans His Dark Material qui découvre la magie du jour au lendemain. Mmh. Nous aussi, on découvre en tant que lecteur. C'est beaucoup plus facile de s'identifier aux personnages mmh. comme ça. C'est un mécanisme qui est vraiment présent parce que justement, c'est super efficace.
Mmh. On part avec des points de repère qui nous sont familiers parce oui. qu'ils viennent du même monde, entre guillemets, mmh. que la personne qui lit le livre, donc mm-hmm. on fait comment, on part de là et on décolle.
Puis dans le cas mettons de Divergent ou de Hunger Games, c'est des personnes qui sont déjà dans cet univers là qui nous le présentent oui. de par mm-hmm. leur narration, mais qui ils vont comme y entrer plus profondément Triss de par le fait qu'elle a son initiation et Katniss par le fait qu'elle est choisie comme tribu. Donc on voit l'envers du décor. Mmh.
C'est rentre dans les coulisses.
Exactement, ce qu'on voyait pas avant. Donc de l'extérieur, nous sommes des jeunes adolescentes et nous voyons ça. Puis maintenant qu'on est à l'intérieur, ben on voit que c'est plus compliqué, il y a des ficelles, il y a du complot, il y a des choses comme ça là, qui s'y déroulent.
Encore une fois, c'est vraiment une espèce de métaphore de l'entrée dans le monde adulte mmh. parce que c'est un monde complètement inconnu, qu'on connaît pas quand on est adolescent, adolescente. Puis on arrive là-dedans, puis c'est tout un autre schéma de repères et une autre façon de vivre qu'on découvre peu à peu. Puis ça pourrait être aussi considéré, je sais pas si j'exagère un petit peu, là, mais comme justement une métaphore de ce passage-là.
Je pense que c'en est une. C'est quoi votre opinion? Moi, je pense que vraiment totalement, là, c'est comme le dit Catherine tout à l'heure, ça peut être imagé ou très réaliste, mais d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a cette symbolisation-là de ce passage et des découvertes qui vont de pair avec ça. J'ai peut-être palacé deux mots sur les guerrières. Je ne sais pas si on a un petit peu de place pour ça. ben, comme vous savez, ceux qui connaissent ma thèse, je travaille sur les figures de guerrières en culture populaire. Puis il y a une énorme partie de mon corpus qui est justement young adult fiction parce que, bon, on rentre dans une librairie anglophone. On parlait du secteur anglophone qui est vraiment très young adult. Il y a la section qui est écrite, qui est attitrée young adult. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les pages couverture des livres? Ben, c'est tout plein de personnages de femmes armées ou guerrières, où tu finis par comprendre que ça concerne un protagoniste féminin qui va y avoir à être appelé à se battre. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir mais pourquoi soudainement, tu sais, il y a autant une recrudescence des personnages féminins combatifs dans la young adult précisément. Puis en faisant mes recherches, bon, j'ai découvert que ça date pas quand même d'hier. C'est dans les années 80, il y a Tamora Pierce, je sais pas si vous connaissez cette auteure-là, qui a écrit le cycle Alana the Lioness, qui est une jeune chevalière qui a envie, en fait, de percer dans le métier, mais qui se fait constamment rabrouer par les autres chevaliers masculins. On est un peu comme dans le cas de figure de Brienne of Tarth dans Game of Thrones, mais avec une héroïne jeunesse. Et ben ça rejoint avec ce qu'on disait tout à l'heure, Tamora Pierce a écrit ce livre-là en n'ayant pas conscience que ça allait appeler les jeunes particulièrement. Elle faisait juste écrire un roman de fantasy. Hein. On est dans un Moyen-Âge fantastique et tout, avec un ordre chevaleresque. Donc elle s'imaginait pas, tu sais, dans sa tête, elle allait vraiment faire un grand public. Et finalement, c'est vraiment les jeunes qui se sont appropriés son œuvre. Et ça a été vraiment un best-seller. Ça l'est encore d'ailleurs. C'est encore très populaire. Puis, ça l'a amené à écrire une longue lignée de figures féminines chevaleresques à travers ses séries. Donc, elle a fait plusieurs séries qui mettent toujours en scène des jeunes combattantes. Et éventuellement, elle a comme lancé une genre de lignée ou un trend, si on veut, en young adult, de faire des personnages féminins de ce type-là. Fait que maintenant, on en retrouve vraiment beaucoup. Je pense à Katniss, je pense à Divergent, mais je pense aussi à tous les livres de Sarah J. Maas qui sont en ce moment des best-sellers du New York Times, qui sont toujours au final ramenée à la figure première de Alana, de Lioness, de Tamara Pierce. Donc, ça l'a vraiment lancé comme... c'est vraiment une sorte de figure tutélaire au fond.
Elle était vraiment seule à avoir fait un livre de ce genre-là. C'est vraiment la première, une pionnière.
C'est la première en Young Adult, en fait. Okay. Ben, qui s'est ramassée en Young Adult parce que ça l'était pas vraiment à la base, mais il y avait eu d'autres guerrières par le passé, mais qui ont pas vraiment... qui n'ont pas vraiment été autant célébrés que l'héroïne de Tamara Pierce. Puis ce qui a vraiment beaucoup charmé le lectorat, c'est le fait que c'est des personnages qui ont toujours la difficulté à devenir des guerrières, hein, sont pas acceptés, donc sont vraiment toujours en train de remettre en question l'ordre chevaleresque. Donc on est vraiment dans un cas de figure totalement revendicateur. Alors cette espèce de résistance là à l'ordre patriarcal, c'est ce qui fait en sorte que bon, il y a énormément d'admiratrices, principalement des lectrices. Hein. Puis, ça me fait penser, bon, le fait qu'il y a ce lectorat-là pour ces livres-là qui mettent en scène des femmes, ben, on parlait du fait que la Young Adult souvent est dévaluée, mais je pense que ça rentre en ligne de compte. Oui. Je me souviens plus c'est où j'ai vu cette étude-là, mais bon, c'est prouvé qu'il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs de Young Adult Fiction. Puis, je pense que le fait qu'il y a comme une... on catégorise un peu comme la checklist, hein, il y a une sorte de stigmatisation par rapport à ce corpus-là, du fait que, bon, c'est pas mal des fandoms de lectrices.
Oui, ça renvoie aussi à un article qui a circulé pendant un bout sur la raison pourquoi on snob un peu tout ce que les jeunes filles aiment, donc qu'on snob One Direction, qu'on snob Twilight, et parce que c'est vraiment une catégorie de la population qui est vraiment... marginalisés. Donc, leur goût ne valent rien parce que ce sont de jeunes filles adolescentes. Mm-hmm. Puis, je pense que la figure de la guerrière doit avoir comme... C'est un rôle aussi dans la réhabilitation de ces goûts-là. Je sais pas si... D'après toi, mais...
Tout à fait. Je pense qu'il y a, une revendication du fait même de la poser comme élément principal des récits, de ces si nombreux récits maintenant. Donc, le fait de réitérer toujours ça aussi, puis de revendiquer, oui, c'est une position valide, puis on n'a pas besoin de faire nos preuves par rapport à ça. Tu sais, c'est un protagoniste. Puis aussi, du fait qu'il faut arrêter de toutes les mettre dans le même panier, puis c'est un peu l'angle de ma thèse, de dire, oui, c'est une figure guerrière, mais c'est surtout des figures. Tu sais, elles sont pas toutes identiques, puis on a souvent tendance à les ramener dans le même panier du fait qu'il y en a pas tant à l'extérieur. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'on peut tirer des comparaisons, mais elles restent quand même uniques. Tu sais, puis on a souvent cette tendance, je pense en général en culture pop, à ramener toutes les figures féminines entre elles parce que bon, c'est ça.
Parce qu'on est aussi peu original que le festival juste pour rire. Donc.
Mais tu sais, juste si on fait le lien par exemple avec je vais encore nommer les même fandom, mais Divergent, Triss, c'est une fille qui voulait devenir une guerrière. Hunger Games, c'est Katniss qui était une chasseuse, qui chassait pour survivre et qui a été amenée à chasser d'autres enfants adolescents pour continuer à survivre. Mmh. Donc de ce qu'on connaît de cette œuvre-là. Et il y a le personnage de Bella, en fait, aussi, dans Twilight, qui est appelé à guerroyer à la fin du quatrième et qui ne guerroiera pas parce que Twilight, ça finit dans queue de poisson. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même fait un appel à ce que la finalité de ton personnage, c'est que tu vas te rendre à une bataille finale où tu vas te battre contre les ennemis. Bon, bref. Stephanie Meyer a choqué, mais ça c'est une autre affaire.
Mais c'est vrai qu'ils sont souvent appelés à... Ben, il y a l'anthologie qui s'appelle Female Rebellion in Dystopian, Young Adult Fiction. Ça pourrait peut-être vous intéresser ben, des auditrices, auditeurs.
Oui, juste le nom.
Ça parle, en fait, ça regroupe pas mal de choses qu'on a dites cet après-midi, puis ça dit justement ça. C'est comme si la figure féminine, puis ça rejoint exactement ta question, Mégane, c'était la mieux trouver pour questionner l'ordre établi, parce que c'est un peu le bouc émissaire, normalement, de la société. C'est celle qui est le plus dévaluée. Puis là, soudainement, elle est mise en position de force, c'est elle qui triomphe, finalement, souvent.
Et elle met un peu le désordre dans l'ordre établi, justement par sa position plus affranchie, qui veut s'affirmer, qui veut se battre contre l'autorité.
C'est comme l'antéchrist de la société donnée où elle est. Fait que finalement, c'est comme la mieux choisie. c'est elle la plus détestée parce que c'est la plus menaçante dans le fond pour tout ce que la société qui est en place représente dans le fond.
Mais tu me donneras le lien justement de l'anthologie, on la mettra en ligne sur la page Facebook pour les auditeurs auditrices.
Ah oui, c'est
mais ça a l'air super intéressant.
Ah oui, vraiment. Puis je trouve que c'est nécessaire. Puis il y en a pas tant. J'en parlais justement avec Pascal Laplante qui s'intéresse beaucoup aux questions des figures féminines en fantasy. Puis il y en a pas tant qui ont été écrits là-dessus, mais de plus en plus parce que le corpus appelle à ça. C'est comme un éléphant dans la pièce. Il y en a tellement. Puis c'est d'évaluer par la critique, par les gens en général, mais aussi les milieux universitaires. On s'entend, tu sais, on n'est pas des foules.
Les littératures, les littératures adressées aux femmes habituellement sont très snobées, là, donc on en avait parlé avec la chick-lit aussi, là, mais définitivement, mais c'est drôle aussi que on dit que ça s'adresse aux femmes parce que le personnage principal est une femme, alors que ça ne devrait pas nécessairement l'être. Ça me fait penser dans l'émission, encore une fois, on renvoie à ça sur les fans dans des femmes, pardon, dans l'univers de Harry Potter que vous avez enregistré aux Amazon la semaine passée. Vous parliez du fait que J.K. Rowling avait été encouragée à enlever juste à mettre les initiales de son prénom pour pouvoir vendre justement un public masculin. Est-ce que le fait que ces livres-là ont des personnages avec guerrières s'adresse nécessairement que aux jeunes filles ou il y a un public plus masculin qui s'intéresse à ça? Est-ce que ça fait comme une scission un peu entre les deux?
Personnellement, dans mon entourage, c'est surtout que je connais pas d'hommes cisgenres qui lisent ces livres-là. Et les peu que je connais qui le font ne se représentent pas dans l'hétérosexualité aussi. Donc, c'est comme, il y a quelque chose de peut-être aussi de ce groupe de personnes-là, comme de femmes ou de personnes non cisgenres ou de personnes qui se représentent pas de l'hétérosexualité. Qui se représentent peut-être plus, qui se sentent plus interpellés par cette littérature-là. Mais, tu sais, bon, ce n'est pas scientifique, ce n'est qu'un bassin de mon entourage. Mais je sais pas vous, est-ce que vous voyez un autre portrait?
Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, je dirais que peut-être si, tu sais, nous, on est trois jeunes femmes, mais on n'est plus dans Young Adult, dans la section d'âge Young Adult. Mais
techniquement,
non, mais on continue à s'intéresser aux Young Adult parce que c'est des questions sur la formation de soi, sur la formation de l'individu dans la société, puis la place qu'on peut prendre, qui sont importantes pour nous en tant que femmes. En tant qu'homme blanc, cisgenre hétérosexuel, c'est peut-être pas le genre de question
que tu poses. Mais surtout que la société fait tout en sorte pour qu'il s'intègre mieux, justement, à la société. Que peut-être que, justement, en tant que femme, cisgenre, ou personne trans, ou personne qui ne s'inscrit pas dans l'hétérosexualité, on a peut-être eu à se battre un petit peu plus contre cette société-là que les gens qui s'intégraient très bien dedans. Là. Donc, il y a peut-être ça qui rentre en ligne de compte, probablement aussi.
C'est ça qu'on se sent plus interpellé, puis ça demeure intersectionnel.
Oui, c'est ça.
Vraiment beaucoup, là.
Je trouve que ça va dans les deux sens aussi. On se sent plus interpellé et même si on dénigre cette littérature-là, on a comme un droit de la lire. Alors que je sais pas, ça aurait l'air de quoi comme la perspective de tu lis ça toi, tu sais. Puis je sais pas s'il y aurait une crainte ou une je sais pas. Je lance ça comme si je savais que j'allais continuer.
On lance des questions.
Oui.
On n'a pas de réponse. Mais tu parlais d'intersectionnalité, là je me pose la question, est-ce que il y a une littérature young adult qui s'adresse principalement aussi aux personnes de couleur, personnes racisées? Ou, je sais pas, je suis vraiment pas connaisseuse du sujet.
Mais j'aurais le sentiment que si t'avais un livre avec une protagoniste femme, et techniquement, Katniss Everdeen n'est pas blanche, techniquement, mais ils l'ont whitewashed dans le film.
De la même manière que Hermione n'était pas nécessairement blanche.
Exactement. Mais je peux te dire que peut-être que si un personnage comme Katniss ou Triss ou peu importe quel, ou n'importe quel héros, héroïne était de couleur, probablement qu'on l'associerait comme, oh, regardez, c'est une œuvre revendicatrice pour les droits des personnes de racisées ou peu importe, tu sais.
Ouais, c'est ça, on la lirait, elle serait vendue et on la lirait autrement, tu sais, en général. Mais pour répondre à ta question, personnellement, j'en vois pas tant. Honnêtement, représentation queer ou racisée, j'en vois vraiment pas tant. Mais je sais qu'il y en a peut-être aux États-Unis, tu sais, qui est un vraiment plus gros marché qu'ici, puis plus d'accessibilité aussi à ces ouvrages-là. Mais ouais, non, pour la quantité qu'il y a, qui est On peut se dire c'est un énorme marché, la Young Adult. C'est, pas le marché du livre. Là, comme Sarah J. Maas avec Throne of Glass, là, elle détrône pas mal de publications. C'est juste énorme, là, les chiffres.
Ben, même vente, pour avoir travaillé longtemps en librairie, c'est pas mal ce qu'on vendait le plus, ça, et des biographies, parce que les gens achètent des biographies. Mais...
Ah ouais?
Je travaille en banlieue.
C'est tellement intéressant, les biographies. Là.
Oui, c'est ça. Mais oui, c'est un énorme marché. Alors, c'est très décevant de ne pas pouvoir pointer ça du doigt, en fait. Mm. Un appel à tous, aux gens qui nous écoutent. Écrivez, s'il vous plaît.
J'ai l'impression que c'est du côté encore de la réception, l'intersectionnalité. Les fans vont vouloir se tailler une place ou se patenter quelque chose à travers ces textes-là ou lire d'une manière intersectionnelle, même si le texte ne donne pas ça. Mm. A priori, donc, je pense que c'est plus de l'ordre de la négociation en ce moment, mais j'ose espérer que ça prend pas différemment.
Et okay, peut-être aussi dans les communautés de fans, avec la fanfiction, la fan art et compagnie, ça aussi, ça peut prendre sa place aussi, là, donc dans des communautés moins institutionnalisées, donc plus dans les marges, c'est là qu'on peut voir justement les nouvelles créations qui peuvent émerger. Je sais pas si... Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a des fandoms très gros de ces livres-là. Donc, je serais curieuse aussi de voir comment ça se déploie de ce côté-là. Là.
Ben, je devrais faire une petite parenthèse qui a comme moyen rapport, juste pour parler de Stephen King encore, parce que je peux. Là, on peut tout le temps. Mais dans les romans de Stephen King, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, il met souvent des enfants et le contexte comme socio-économique dans lequel ces enfants-là grandissent est souvent un contexte qui est extrêmement homophobe. Puis l'homophobie est tout le temps mise en scène pour la dénoncer. Il y a quelque chose de très... C'est super étrange parce que, justement, comme Stephen King est un homme blanc, il y a beaucoup d'hommes qui lisent ça, puis il y a beaucoup comme de républicains qui sont fâchés par les sous-thèmes revendicateurs de ses livres. Puis, justement, l'homophobie, c'en est un. Dans It, il y a un personnage homosexuel qui se fait, en fait, lyncher par des jeunes homophobes et ensuite manger par un clown. Et ça, c'est une chose qui était vraiment arrivée à Bangor où Stephen King habite, et ça l'avait tellement traumatisé que ce genre de choses pouvait arriver en 1985, qu'il s'est dit, ben...
Il s'était fait manger par un clown?
Non, il s'est pas fait manger par un clown. Il s'était littéralement fait lyncher, en fait. Il y avait des gens qui avaient lancé des roches à la sortie d'un bar, à la fermeture des bars, et c'est ça, parce qu'il était homosexuel, puis c'est ça, c'est le genre de truc qui est souvent mis en scène. Il y a beaucoup de tensions homoérotiques entre les personnages dans l'univers de Stephen King, et c'est toujours des trucs qui sont très latents parce que l'homophobie est là. Parce qu'il faut en parler, mais qu'on peut juste en parler de manière détournée, parce que le contexte en empêche, c'est ça. Fait qu'il y a comme une manière d'essayer de toucher à l'intersectionnalité, justement, puis toucher à ces identités queer-là, sans vraiment le faire, parce que quand on le fait, on se fait lyncher, comme le pauvre Adrian Mellon dans It.
Mais en fait, ça fait que ces oppressions-là deviennent... c'est juste porteur de l'horreur, en général, donc...
De cette situation-là.
Puis je pense que c'est très présent dans le livre de Stephen King, de juxtaposer l'horreur fantastique et l'horreur quotidienne, celui de l'alcoolisme, oui, mais dont tu parles, donc l'homophobie et compagnie. Là,
de, oui, qui est souvent, c'est ça, qui est souvent exploré dans un contexte. Il n'y a pas de... Ah non, il y a des lesbiennes dans les livres de King. Ça, c'est correct. Ça, on peut en parler, c'est correct. C'est comme si le lesbianisme était moins tabou que c'est ça, l'homosexualité masculine. Mais c'est ça, habituellement, quand ils parlent d'homosexuels, c'est des jeunes garçons qui auraient des tendances et ça s'affirme jamais parce que leurs parents leur disent comme, tu peux pas être un... Je sais pas, c'est toujours des termes dérogatifs, là. Tu peux pas être un faggot ou je sais pas quoi. C'est toujours des choses comme
ça. Ça revient, j'ai commencé à écouter Myst aussi, là, sur Netflix.
Oui.
Si ça revient, c'est très, très présent.
C'est tellement exceptionnel ce qu'ils ont fait avec ça. Je suis vraiment fière de ce qu'ils ont fait avec cette émission-là. Ils touchent à des thèmes tellement intéressants. Puis, en tout cas, je vous recommande ça. Myst, sur Netflix. Go.
Ah, cool.
C'est vraiment bon.
Vive Netflix.
Vive Netflix. Oui, c'est ça. C'était ma petite parenthèse sur les homosexuels.
Mais c'est ça, on voit que, justement, la littérature young adult et la fiction en général young adult touchent à plein de thèmes, mais de façon très, très directe, si je peux dire. Mm-hmm. Donc, on s'adresse directement au lectorat, contrairement à la littérature plus adulte où on parle de choses et vous décidez si vous prenez dedans. Là, il y a comme l'aspect plus pédagogique, entre guillemets, qui prend encore plus de place. Donc, on dirait qu'il y a un échange plus direct entre le lectorat et l'œuvre.
Ouais, je pense que c'est plus exposé, hein. On est vraiment, même si c'est métaphorique, c'est exposé. Ben, tu sais, c'est vraiment, Et je... c'est comme le au cœur du récit, en fait.
Tout à fait, puis j'aurais envie de rebondir avec ça sur la question de la lutte de classe, parce que les univers dystopiques sont super présents, justement, on en a déjà parlé dans l'épisode qu'on vient de faire en ce moment, mais il y a une notion vraiment importante aussi de, bon, dans Divergent, il y a clairement une notion de, c'est beaucoup, et même dans Maze Runner, il y a beaucoup de liens avec le contrôle gouvernemental, tu sais, donc le gouvernement qui contrôle, comme que c'est des vases clos, on sait pas vraiment ce qui se passe, on est contrôlé, on est surveillé et on nous demande, on le savait pas, mais dans le fond tout ça n'était qu'un grand subterfuge. Dans Hunger Games, c'est un peu différent parce que c'est pas caché, l'oppression n'est pas cachée, elle est institutionnalisée et tout le monde sait que ça existe. Et tout le monde l'a subi. Et l'utilisation même du jeu de Hunger Games est une façon d'asseoir un pouvoir puis de dire, ben, vous avez tellement pas de pouvoir puis vous croyez tellement en avoir un qu'on va vous écraser un peu là-dedans en tuant vos enfants. Là, tu sais, ce qui est quand même
à la télé.
À la télé. Et pour le plaisir de la bourgeoisie, c'est même pas subtil. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que on sait que les films de Hunger Games ont été quand même scénarisés en partie par Suzanne Collins. Et Suzanne Collins, Hunger Games est un livre écrit au jeu où on ne voit que le point de vue de Katniss, mais dans les films, on a la chance d'avoir des scènes justement du président Snow qui va donner des petites indications sur qu'est-ce qui était derrière, donc comme qu'est-ce que Suzanne Collins pensait dans le fond probablement de son univers ou de comment son gouvernement pensait qu'on n'avait pas accès dans les livres. Donc dans le premier film d'Hunger Games, t'as le président Snow qui dit « Sais-tu pourquoi on fait pas juste lyncher comme 24 enfants? » Pourquoi est-ce qu'on les laisse ben c'est pas 24 tout à fait, mais en tout cas, c'est pourquoi est-ce qu'on fait pas juste comme les asseoir puis genre toutes les tirer d'une shot? C'est l'espoir, parce qu'à la fin de ce jeu-là, il y a la nomination d'un héros, il y a quelque chose qui met, il dit l'espoir ça se manage, tu sais, juste un peu, pas trop. Puis ça c'est quelque chose qui était pas présent dans les livres, mais que justement le film nous a donné accès à cette espèce de vision là de le gouvernement qui te démontre ton oppression a quand même institutionnalisé toute une façon de te maintenir en place puis de te maintenir en manipulant puis aussi ben avec tout le système oppresseur qu'on voit, donc avec les peacekeepers puis l'utilisation donc d'un black market dans pas mal toutes les districts, mais qui sont démantelés sans arrêt, la violence policière qui est très présente aussi à l'intérieur de toutes les œuvres d'Hunger Games. Et aussi, et là, c'est à ce moment-là que j'aimerais faire un lien avec une autre œuvre qui est Young Adult, je sais pas, mais du moins qui est une œuvre que moi j'ai lue adolescente, qui est La Ferme des Animaux de George Orwell.
Oui, oui, oui.
Et pour moi, Hunger Games et La Ferme des Animaux, c'est la même chose. Ouais. C'est le même.
Je suis d'accord.
C'est pas exactement la même chose, mais il y a beaucoup de liens à faire. Puis j'ai fait de façon non exhaustive une série de liens qu'on peut faire entre les deux œuvres. Il y a entre autres l'utilisation de leitmotiv en fait dans les deux œuvres. Lorsqu'on parle d'Hunger Games, on a la phrase que va répéter ad nauseam "May the odds be ever in your favor", donc que la chance soit de votre
soit en votre faveur
en français. Et dans Animal Farm, on a la phrase qui est écrite qui est tous les animaux naissent égaux. Et il y a une parodie, comment je pourrais dire, on va remixer cette phrase là on va la remanier pour démontrer l'absurdité de l'univers fictif dans lequel on est. Dans Hunger Games, on va dire "the odds are never in our favor", donc c'est pas vrai ce que tu nous as démontré, c'est un mensonge. Et il y aura la même chose dans La Ferme aux animaux à la fin du livre, lorsqu'on va se dire tous les animaux naissent égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres.
Oui.
Donc qui est quand même assez brillant.
C'est une belle phrase.
C'est très brillant comme représentation, mais justement de dire comme ben tu nous as donné une phrase toute faite qu'il faut se répéter et qui va nous donner espoir, mais dans le fond ben on va déconstruire cette leitmotiv là dans les deux œuvres. Il y a aussi une représentation masculine de chef en fait que j'ai trouvé intéressante. Bon, c'est Napoléon qui est le grand méchant de Animal Farm, mais il y a quand même le premier chef de la rébellion qui s'appelle Snowball. On a le président Snow aussi, représentation de la pureté, quelque chose en lien avec justement l'homme blanc et tout ça. Il y a aussi Et là, où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, bien sûr. Il y a aussi l'utilisation, je trouve intéressante, de la reprogrammation comportementale ouais. qu'on a chez Orwell avec les chiots qu'on kidnappe et qu'on forme comme soldats d'élite sous le joug de Napoléon. Mais aussi, il y a la même chose dans Hunger Games lorsque Peeta est kidnappé et est reprogrammé pour s'attaquer à Katniss. Donc, l'espèce d'être pur que sont des jeunes chiots ou Peeta, donc vont devenir cette espèce de...
Comme les Mockingjay aussi, je sais pas si t'avais un parallèle aussi qui s'en faisait, ben tu sais, avec les j'aime au cœur qui étaient censés répéter les messages, dans le fond, qui venaient du Capitole,
oui.
qui finalement se font déprogrammer et qui deviennent hérétiques en répétant un peu comme ils veulent, comme Katniss, en fait, qui devient un j'aime au cœur qui répète les choses, mais en les détournant tout le temps un petit peu. À sa façon. Bref, continue. C'est vraiment fascinant, les parallèles.
Je vois ce que tu... j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est un très bon point. Mais c'est sûr que... je vais finir avec ce dernier point-là, mais le plus obvious, là, c'est ce qui est le principal lien qu'on peut faire entre les deux œuvres, c'est une représentation de la non-viabilité d'un système capitaliste ou communiste. C'est clair, net et précis, majoritairement dans le troisième tome d'Hunger Games, où est-ce qu'on va au district 13 et on comprend que le district 13 s'était séparé, voulait vivre un idéal communiste, que finalement cet univers-là est corrompu, ça marche pas, la représentation du chef aussi. N'a pas des... Bon, là, j'ai comme un blanc et je m'en veux. Un blanc sur le personnage. Coin, merci. Oui. Donc, qui est pas un beau personnage non plus, qui est un personnage de femme aussi, qui est pas un beau personnage, et ça c'est vraiment super. Et il y a aussi, donc, la finalité de l'œuvre d'Hunger Games se termine quand même sur une note. Ben là, on a la chute des deux systèmes, puis peut-être que ce qu'on devrait essayer, quelque chose qu'on n'a jamais essayé avant, ça serait un monde anarchiste autosuffisant. Pis c'est comme ça que se termine le troisième tome d'Hunger Games. Et c'est un peu un lien. Bon, dans La ferme aux animaux, il n'y a pas cette finalité-là, mais on sait que Orwell, du moins, on lui a prêté beaucoup d'intentions sur ses pendants anarchistes. Et je pense que... Bon, je sais pas si Susan Collins est une militante anarchiste syndicaliste, mais du moins, il y a des liens à faire, clairement.
Elle est sûrement séduite par l'idée, en tout cas, là.
Ben, voilà, tu sais.
Je sais qu'elle est anti-guerre, est anti-violence. Tu sais, son père a fait la guerre, c'est de là aussi qu'est venue l'idée de Hunger Games. Ça, plus les images qu'elle voyait à la télévision, des téléréalités juxtaposées aux images de guerre, mais elle a été très marquée par la guerre. Alors, éventuellement, je pense que oui, elle était vraiment pour l'abolition de tous les conflits armés. Ce que nous dit Katniss aussi à la fin, donc c'est vraiment...
Ce qui est dommage, parce que ça a été complètement mis de côté dans les films.
Oui.
Ben là, on a vraiment plus un retour dans les films. Il y a quand même un retour justement à une espèce d'idéal républicain avec une réélection d'une présidente puis tout ça.
Mais aussi l'idéal républicain qui est porté par ses héros et héroïnes, si je peux dire. Là. Donc Katniss prend un... J'ai pas vu tous les films au complet jusqu'à la fin, mais il me semble qu'elle prend un rôle vraiment symbolique à la fin, plus que dans les livres, j'imagine.
Ben non, ben dans les deux, c'est la même chose. Ouais. C'est l'utilitaire.
Okay.
C'est uniquement pour arriver à ses fins, pour sauver sa famille, puis pour sauver le chat.
L'effet de survie qui gouverne Katniss avant toute chose.
Ouais.
C'est très intéressant parce que ça fait d'elle un personnage féminin imparfait.
Ben oui. Ah ouais. Oh, ben oui.
Ouais.
Mais c'est très intéressant de voir que c'est elle l'héroïne.
Puis qu'elle soit autant aimée par le public. Moi, je trouve ça génial. Je me dis, Colin.
Mais c'est son image qui est aimée parce que personne ne la connaît.
Non, c'est ça.
Il y a juste nous qui connaissons ses intentions parce qu'elle est une introvertie.
On l'a vu.
Ouais.
Fait que
Mais le cinéma subvertit aussi un peu cette introspection-là, là, parce que, oui, je vais revenir aux annonces parce qu'on tire vers la fin, mais la journée convergence et transfiction, c'est exactement là-dessus. C'est de voir comment, d'un passage à l'autre, il y a quelque chose qui se subvertit, mais qui amène des choses nouvelles aussi.
Oui,
du passage à la littérature au cinéma, vice-versa, à la télévision aussi. Là.
Oui, puis comment ça se transforme de manière à porter le propos. Je reviens à ce que tu disais, Elisabeth, c'est tellement intéressant par rapport aux coulisses dans Hunger Games qui sont illustrées dans le film, ce qu'on n'avait pas vraiment accès étant donné qu'on était au jeu de Katniss, comme tu l'as dit. Puis le fait qu'on voit les game makers aussi, on échappe un peu au côté représentation de la violence qui aurait pu être un écueil potentiel du film si on n'avait pas eu accès à ça, puis on avait juste vu les combats, mettons, ou la violence dans les Hunger Games. Là, on voyait vraiment la stratégie et le machiavélisme un peu de ces personnages.
C'est la violence bureaucratique.
C'est ça, la violence bureaucratique. Puis toute cette violence-là est très mise en place comme sur un jeu d'échecs.
Ouais.
Puis ça fait un côté métadiscursif aussi qui échappe aux simples juste reproductions de la reine.
Comme on voit aussi dans Cabin in the Woods, là, donc le film. Donc, il y a vraiment la violence bureaucratique, la violence de la bureaucratie fait vraiment plus peur que la violence qui se passe dans les bois ou sur le jeu dans Hunger Games. Là.
Exact, oui, c'est la violence réfléchie parce qu'à la limite, les jeunes qui sont placés dans la reine, ils vont tuer des gens, sont en quelque sorte des bourreaux, entre guillemets, mais c'est avant tout des victimes des game makers. Que je trouve vraiment fantastique qu'ils soient illustrés dans les films parce qu'on n'avait pas, on les avait pas dans les.
Et les pires bourreaux, par exemple, le pire bourreau du premier livre va quand même finir sa vie en disant, s'il te plaît, là, tue-moi, là, genre, j'en peux plus, là. J'en peux plus. C'était le méchant, là. Mais tu sais, comme, il est autant une victime que toi. T'sais.
Voilà.
Ouais, le vrai problème, c'est.
Le système.
Le système.
Quelle belle conclusion.
Oh, ça finit bien. Mais on va continuer à en discuter vendredi, donc à la journée d'études. Je vous invite de venir en grand nombre. Ça va être super intéressant. On va parler de Hunger Games, mais de beaucoup d'autres œuvres. Et ça va être tout pour notre émission aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine où on va vous parler de la grève de 2012. Donc, on va faire un petit retour là-dessus.
Wow.
Et donc, voilà. Merci. Merci Catherine. Merci Fanny. Merci Elisabeth d'avoir été avec
merci
moi.
Merci.
Pour cette magnifique émission. Et bonne journée.